Bienvenue dans ce nouvel épisode de Bip Bip. Je suis Alexandre Popiolek, doctorant en psychologie sociale sur le sujet de la confiance dans la santé et fondateur d'Empathia, mon entreprise de recherche et de formation. Dans ce podcast, j'explique comment je réalise et finance ma thèse, construis mon activité et avance sur mon développement personnel. Pour en savoir plus, je vous laisse écouter l'épisode 0 ou le résumé de saison et nous allons maintenant pouvoir commencer. Cette semaine, encore une fois, un épisode non filmé. Voilà, mes excuses pour ce manque de régularité et de netteté dans la manière dont je fais ce podcast. Donc je saute une semaine et la semaine d'après n'est toujours pas filmée. Oui, mais c'est la seule manière que je trouve pour maintenir ce podcast, en fait, de le faire comme je le sens et en m'évitant les contraintes et en gardant le format qui me motive. Donc mes excuses, mais tant que je n'ai pas du temps, ni de l'argent pour vraiment passer la seconde sur ce projet de podcast, c'est-à-dire faire des formats courts, faire de la pub, le mettre en avant un peu plus sur LinkedIn, eh bien ça restera une discussion entre vous et moi sur, je ne sais pas si j'ai une communauté, non, parce qu'une communauté doit être en interaction, donc je ne crois pas que vous soyez en interaction. Donc je préfère rester avec mes petits auditeurs et maintenir le cap, vous expliquer ce qui se passe plutôt que d'essayer comme, j'allais dire comme d'habitude, mais plutôt comme avant, de tout faire au mieux, quitte à ne rien faire. Donc voilà mes excuses pour ce format, mais la semaine dernière, en fait, j'avais pas tant de choses à vous dire que ça, plus du travail, plus un nouveau PC. Ce qui fait que il fallait que j'installe tous les niveaux dispositifs de son, etc. Donc oui, j'aurais pu enregistrer sur mon autre PC. Mais j'ai un peu tout déménagé. J'étais sur le moment où justement je voulais en profiter de cette pression de faire le podcast pour télécharger les trucs audio, etc. Et tout mettre en place. Chose que d'ailleurs j'ai toujours pas fait pour le côté montage audio, parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à installer vu que ce n'est pas forcément par des voies officielles. Voilà, ceux qui voudront comprendre, comprendront. Mais vu que je ne veux pas faire n'importe quoi avec ce nouveau PC, eh bien voilà, je n'ai pas encore tout pour tout monter. Ce qui ajoute aussi la complexité de filmer. Et puis tout simplement, enfin voilà, je n'ai pas très envie. Donc on va dire que si je n'ai pas envie, je ne le fais pas. Et comme ça, vous savez que ce que je vous offre, c'est quelque chose que j'avais envie de le faire. Et on reste sur quelque chose de cohérent. Pour ajouter à mes excuses, mais bon, je m'excuse alors que ça n'a pas lieu d'être. Mon bureau est en bordel. D'ailleurs, tout est un peu en bordel chez moi. Donc voilà, il faut que je prenne le temps aussi de ranger. Et je n'ai pas eu le temps parce que entre des événements sociaux qui me font plaisir, qui sont de la détente et du travail, eh ben, je ne prends pas le temps en fait, de m'organiser. Donc là, nous sommes dimanche. Je vais profiter de ce dimanche pour refaire le point un peu sur tout parce que j'avoue que là, c'était travail, travail, travail ou sortie, sortie, sortie. Ce qui fait que là, il va falloir se poser un petit peu. Bref. Voici pour cette petite introduction. J'ai pas mal de choses à vous dire. Cette fois-ci, la pause des deux semaines a été assez pertinente. Eh bien, je vais vous faire un petit sommaire parce que ça me plaît. Voilà. Alors, pour commencer, on va parler. On va pas parler de thèse parce que je suis toujours pas à la tête dedans. On va parler de l'entreprise. J'ai compris beaucoup de choses par rapport à la gestion de projets et surtout la gestion de projets en recherche que j'aimerais vous partager avec des problématiques autour de l'engagement des personnes, de réfléchir à un processus qui marche bien pour bien faire son travail et impliquer les personnes. Je vais vous refaire un petit point sur cette thématique de l'évaluation des dispositifs avec une espèce de structure chronologique dont je vous avais parlé et j'ai assez réfléchi dessus parce que tout simplement j'ai pré-testé cette structure d'entretien. J'ai la signature d'un contrat, mais bon, j'ai pas grand chose à vous dire que ça, donc voilà la nouvelle édite. Un des contrats qui fait que je vous ai dit que j'avais un an qui allait être financé de thèse a été signé, donc ça y est, on est passé de 90% de certitude à 99%, parce qu'ils peuvent toujours m'abandonner en cours de route, mais en tout cas, voilà, c'est signé. C'est un gros contrat qui me permet vraiment de pouvoir souffler financièrement, donc je suis content. On va parler d'une intervention que j'ai fait face à des jeunes délinquants. qui était intéressante et qui m'a appris un peu sur la formation, comment ça peut fonctionner. Et puis, bah, je vais vous faire part de, sur la rubrique développement personnel, mais plutôt ouais, personnellement, où j'en suis, ce que j'ai compris, une nouvelle petite idée de fonctionnement pour diminuer son stress et augmenter sa productivité tout en se sentant mieux, que j'ai eu, que j'essaye d'appliquer là depuis quelques jours et qui a l'air de bien fonctionner. Et puis, je vous présenterai mon petit coup de cœur des 2 semaines, un petit truc de geek. Je ne sais plus comment j'avais appelé cette rubrique, mais voilà, quelque chose qui n'a pas en lien avec le podcast, une espèce de recommandation, je crois que c'était ça. Voilà pour le sommaire, et nous allons donc pouvoir commencer directement avec la rubrique qui est quasiment la seule rubrique de ce podcast maintenant, la rubrique entreprise. Alors, je voulais vous parler d'un sujet autour de l'engagement des personnes, etc. Donc, en fait, c'est le même projet pour lequel le contrat a été signé. J'ai beaucoup d'entretiens à faire avec des personnes. Et en fait, j'ai dû faire une phase de pré-test. Donc, la phase de pré-test, c'est la phase dans laquelle on se rôde, que ce soit dans, pour l'organisation, en fait, la logistique, voir comment on fonctionne, mais également pour les questions qu'on va poser. Donc, quand on mène des entretiens, on prépare un guide d'entretien. Enfin, quand c'est des entretiens semi-directifs, c'est-à-dire qu'on dirige avec des questions générales, mais on laisse quand même libre cours à l'explication et à la pensée des personnes, on prépare un guide. Et en fait, généralement, on fait quelques premiers entretiens pour tester ce guide, tester ces questions et se dire, ah bah tiens, quand j'ai posé cette question, j'allais pas dans le registre que je voulais moi psychologiquement, ou j'avais pas le type de réponse pas auquel je m'attendais. Enfin, le type de réponse auquel je m'attendais, mais pas le contenu. Parce que de fait, normalement, le contenu, on ne doit pas vraiment s'y attendre, en tout cas dans une approche exploratoire. Mais par exemple, quand je pose un certain type de question, je veux un certain type de réponse. Imaginons que je veux, vu qu'on est autour de l'évaluation du programme, je veux mieux comprendre comment s'est déroulé le programme. Et bah, si je pose une question en disant comment s'est déroulé le programme et que la personne me parle comment les émotions qu'elle a vécues, les émotions qu'elle a vécues, ça peut m'intéresser, mais là, moi, je voulais quelque chose de descriptif sur le déroulé du programme, donc ma question ne vise pas le bon type de réponse. Et c'est ça, en fait, qu'on va tester dans le pré-test. Et voilà, toutes les choses qui sont à côté, comment on organise les rendez-vous, comment ça fonctionne, comment c'est perçu, le temps que ça dure, notre démarche vis-à-vis des personnes, parce que ça se trouve, on est face à des groupes qui ont un peu plus de mal avec l'exercice, des choses comme ça. Donc, j'ai pu faire un pré-test pour un projet qui ressemble à de l'évaluation du dispositif. C'est celui pour lequel je vous avais dit, tiens, c'est marrant, il y a une structure avant, pendant, après qui peut être intéressant. Et ben en fait, entre le moment où je vous ai dit ça et aujourd'hui, il y a eu un moment où je me suis dit, ah, finalement, ça marche plus très bien. Je sais plus si je l'ai partagé dans un podcast. J'avoue que je me perds dans ce que je vous partage. J'espère que je me répète pas trop. Mais en tout cas, j'ai douté de cette structure que je vous ai partagée. Avant, pendant, après. Et donc, j'ai changé. Je suis plutôt allé sur du comportemental, cognitif, donc réflexion, opinion, et affectif, donc les émotions, les ressentis émotionnels. Parce que je me disais, quand on doit faire le tour d'un sujet, si on a les comportements, les réflexions et les émotions, bah déjà, ça renvoie à une théorie des attitudes, une théorie psychologique qui dit que. Quand on a une opinion ou quand on porte un avis sur quelque chose, il y a un versant avis-opinion, il y a un versant comportemental et il y a un versant émotionnel. Et donc je me suis dit, tiens, c'est marrant en fait, quand il y a un sujet psychologique, j'ai l'impression qu'il y a trois trucs qui se passent, c'est un comportement, des réflexions et des émotions. Donc pour les décrire, ça peut être intéressant. Et donc j'ai essayé un peu plus de tirer une structure autour de voilà déroulé cognition émotion comportement et en fait bah ça marche pas très bien c'est pas horrible mais en fait c'est beaucoup plus simple de faire du avant pendant après parce que les gens se représentent pas mal les choses de manière chronologique en tout cas quand je commence à demander le déroulé en fait c'est plus facile pour moi et plus logique pour les participants de expliquer le déroulé et à la limite à chaque étape du déroulé, je demande les émotions d'un côté, les réflexions de l'autre et les comportements, ce qui s'est passé. Donc voilà, j'ai réfléchi sur ça. Je pense quand même que la structure avant, pendant, après, même si elle peut vous paraître archaïque et simple, elle a du sens parce que je commence à voir que même quand je veux faire autrement, les gens vont vers une structure comme ça. Et à la limite, c'est à nous de spécifier les questions sur savoir bah, qu'est-ce qu'on veut à chaque étape. En tout cas, voilà, toujours dans le cadre d'une évaluation d'un dispositif pour évaluer le ressenti de participants, de patients sur un programme, un dispositif, quelque chose auquel ils ont participé. C'est une structure qui a l'air de se préciser en tout cas. Au-delà de la structure de l'entretien, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est l'importance, et donc on va dire que c'est une erreur que j'ai faite, même si je m'en veux pas parce que j'ai été inclus dans ce moment-là de l'étude un peu au dernier moment, donc finalement j'ai pas vraiment eu le temps de penser à tout ça, mais j'aurais dû faire quand même une meilleure précision du processus d'implication. En fait, pour ce projet-là, je travaille avec des participants qu'on peut estimer comme un public un peu plus difficile à motiver parce qu'il y a des pathologies psychologiques derrière. Et en fait, j'aurais dû mieux estimer l'importance des profils parce que sur 5 rendez-vous, il n'y en a eu que 3 qui se sont faits avec une annulation au dernier moment et une personne qui ne s'est pas présentée. Alors même si je pense qu'il y a des profils, des groupes, des pathologies qui peuvent amener à ce genre de comportement, eh ben c'est mon travail de devoir compenser, en tout cas, et apporter un processus plus engageant. Et donc, ça remet en question ce que j'aurais dû faire, c'est le genre de truc auquel je pense, mais là, j'aurais dû y penser et mettre ça en critère peut-être plus important. Mais en fait, le prétexte sert aussi à ça, sert aussi à se dire, mince, j'ai peut-être un problème dans ma communication. Et on revient un peu à ce que je veux vous partager depuis plusieurs semaines, c'est-à-dire mon kiff de faire de la recherche sur le terrain. C'est que de la recherche sur le terrain, c'est aussi utiliser de la science pour améliorer ses processus. En tout cas, en psychosocial, on a des idées de savoir comment on implique, comment on engage, comment on motive les personnes. Et donc, ça se trouve, je peux étudier la motivation des personnes, mais utiliser ce que je sais de la motivation et de l'engagement pour impliquer les personnes dans mon étude. Et c'est ce genre de gymnastique que je trouve vachement intéressant quand on fait de la recherche de terrain. C'est que là, j'utilise la science et pour en créer. En fait, la science est dans ma vie plutôt et pour en créer, mais aussi pour l'utiliser pour en créer plus facilement. J'espère que c'est clair. Je vais arrêter de me répéter. On passe à l'idée suivante. En tout cas, ce que j'aurais pu faire pour engager, c'est avoir un processus beaucoup plus clair. Donc, j'ai fait des achats d'entreprises pour lesquelles je suis très satisfait. C'est un Calendly professionnel, enfin une version premium de Calendly. Donc, en gros, c'est un service dans lequel on peut prendre des rendez-vous automatiques. Et un service de transcription automatique par IA que j'ai essayé. Donc, TurboScribe, voilà, pour ceux qui ont besoin de faire de retranscription. J'utilise TurboScribe, je l'ai testé et en fait la qualité est incroyable, je vous le conseille. Les données sont protégées, elles nous appartiennent totalement, elles ne sont pas stockées, donc je me sens bien au niveau éthique, je me sens bien au niveau productivité. Donc j'ai pris un abonnement 1 an à TurboScribe, Scribe, et à un service de rendez-vous, mais aussi de gestion des rendez-vous. Et en fait, bon, ça c'est juste, voilà, je vous ai dit TurboScribe parce que j'y ai pensé. Mais pour revenir à engager les personnes, j'ai pris un Calendly Premium parce qu'on peut faire des suites de mails, des relances, des remerciements, poser des questions avant. Et donc, c'est une manière pour moi d'automatiser des relances. Donc, première solution, en fait, re relancer quand on a des rendez-vous. Là, j'ai fait un jour avant et 1 heure avant pour dire salut, on a une visio demain ou salut et après salut, on a une visio dans 1 heure, n'oublie pas, le lien est là. Donc voilà, ça c'est déjà fait, donc c'est ce que j'aurais dû faire avant. Et au-delà de ça, bon, ça c'est une solution pratique technologique. Quelque chose de plus de l'ordre de la psychologie sociale, c'est de l'engagement et de l'implication. Je pense que pour les prochains rendez-vous, parce que c'est un projet qui va me tenir toute l'année, hein, donc je devrais peut-être, d'ailleurs, comme je dis à chaque fois, demander si je peux parler de l'association, parce que ce serait plus simple de vous dire le nom, ou au moins discuter du thème et de savoir dans quelle mesure ils sont d'accord pour que j'échange mes réflexions sans citer le nom de l'asso, parce que j'ai peur que vous y perdiez, même si j'essaie de vous transmettre des choses fondamentales que vous pouvez utiliser dans d'autres parts. Mais bon, voilà, c'est pour ceux qui veulent un peu plus suivre quel sujet et quel contrat, ça pourrait être peut-être plus simple. En tout cas, ce que j'aurais pu faire pour engager les personnes, c'est ce que j'ai fait, mais j'aurais dû le faire plus, c'est aller voir les personnes en direct si c'est possible pour leur dire coucou, c'est moi, je suis Alexandre, je suis psychologue, je vais vous demander un rendez-vous. Donc voilà, faire en fait, j'ai beaucoup joué la casquette du mec sympa, friendly, jeune, parce que c'est un public jeune. Et donc il y a aussi cette stratégie de faire attention à l'image qu'on renvoie. C'est quasiment ma spécialité, l'image qu'on renvoie, donc je sais la gérer. Peut-être que j'ai été trop friendly, parce que je sais qu'il y a des systèmes de compensation, en fait, quand on se présente comme étant quelqu'un de trop sympa, gentil, chaleureux, on peut être vu comme moins compétent, intelligent. Et donc ça se trouve, on m'a pris pour un rigolo. C'est pas mon hypothèse, j'allais dire préférée. Bon, évidemment, c'est pas mon hypothèse préférée, mais c'est pas l'hypothèse la plus probable. Je pense que le plus probable, c'est que les gens ont eu peur, tout simplement parce qu'une annulation au dernier moment, ça renvoie. Enfin, je pense pas que pour le public que j'ai, ça veut dire qu'ils me sentent bête, mais plutôt qu'ils sont stressés. Donc, j'aurais plutôt dû jouer limite la carte du plus friendly, d'aller les voir, de forcer sur le fait du tutoiement. Et par exemple, j'ai mal jaugé le temps d'entretien. Je pensais, normalement, un entretien, ça dure à peu près 1 heure, même 1 heure et demie, selon les sujets. J'ai même plutôt normalement besoin de réduire le temps que de le gonfler. Mais là, c'est des entretiens, les entretiens tests qui ont duré entre 30 et 45 minutes. Et donc, en fait, moi, je prévois une visio d'1 heure et demie pour introduire avant, estimer qu'il y a des fois des retards, discuter après. Et donc voilà, on se dit si les gens parlent sur la partie enregistrée pendant 1 heure, et bah il y a un peu de temps avant, il y a un peu de temps après, qui fait que voilà, 1 heure et demie, c'est bien. Et donc je pense 1 heure et demie, ça fait peur. Le lien de ma visio s'appelle Visio 1h30. Je pense qu'on ne peut pas faire plus froid. Et s'il y a des gens qui ont des problèmes anxieux ou sociaux, de se dire waouh, 1h30, ça peut faire peur. Donc peut-être que juste aussi dans le titre, un truc qui s'appelle juste Discussion avec Alexandre, ça peut être beaucoup plus simple. Voilà, il y a plein de détails où je me dis que je pourrais gagner en implication des personnes et aussi en les engageant un peu plus. C'est-à-dire, l'engagement, c'est un système d'implication comportementale qui est associé à, en fait, plus on fait un comportement dans le sens de quelque chose, donc là, imaginons dans le sens de l'étude, plus on peut faire quelque chose qui est plus coûteux par la personne. Donc, c'est-à-dire, si je demande tout de suite de faire une visio avec moi de 4 heures, les gens risquent de dire non. Alors que si je dis, bon, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on discute 10 minutes un certain jour en physique, il y en aura plus qui diront oui. Puis après, je dis, ah, ce serait bien qu'on se voit la semaine prochaine, mais cette fois, une petite heure. Et bah là, je risque d'avoir plus de gens. Et finalement, peut-être qu'un jour, je pourrais dire, bon, là, on se verra à 4 heures et les gens seront plus investis. En tout cas, théoriquement, c'est comme ça que ça fonctionne, même si l'exemple est peut-être pas le meilleur. Je peux peut-être réfléchir à engager les personnes. Par quelque chose qui est éthiquement correct, c'est-à-dire aller les voir un peu plus souvent, en fait. De dire salut, je suis là, et puis quelques semaines après, bon, parce qu'en fait, c'est des entretiens qui doivent avoir lieu à certains moments du programme. De dire bon, bah là, on va bientôt se voir, est-ce que vous êtes d'accord? Je suis dispo pour un appel pour vous expliquer ce qu'on va faire. Enfin voilà, je pense que je peux beaucoup plus lisser le processus. Je vous ai partagé mes quelques idées et je vais réfléchir tout simplement avec mes clients. Ça me fait bizarre de dire client, j'avoue. Mais ouais, je vais en discuter. On va réfléchir à un meilleur processus. Mais voilà, ne pas sous-estimer, si vous voulez faire de la recherche sur le terrain, ne pas sous-estimer l'engagement et l'investissement des participants, parce que vous allez perdre, vous risquez en tout cas de perdre du temps des participants et aussi de mal faire vivre potentiellement un processus à des personnes, et ce serait dommage parce qu'on fait quand même de la science pour les gens. Donc si les gens qui aident à faire de la science sont pas satisfaits, j'ai pas l'impression qu'on répond tout de suite à ce qu'on attend de nous. Surtout qu'entre faire du bien aux gens dans une étude et faire du bien aux gens par une étude scientifique, le plus simple, sincèrement, c'est de faire du bien aux gens pendant qu'on fait l'étude, parce que quand on publie, attendre que nos publications aient une conséquence directe sur notre population, c'est quelque chose de très incertain et surtout de très long. Donc finalement, je reste psychologue. Est-ce que mon travail de psychologue ne peut pas être utile tout de suite, plutôt qu'essayer de faire de la recherche et espérer qu'elle le soit dans 20 ans? Bon, ça a l'air très négatif vis-à-vis de la recherche, mais bon, voilà. Je suis toujours autant passionné de la recherche, mais ça fait partie des réflexions qui me traversent quand je suis dans des projets, en tout cas. Voilà. Ce que j'ai à dire aussi, c'est que je comprends. Donc là, c'est pas spécifiquement sur ce contrat, mais c'est sur ce contrat et d'autres. Mais je comprends quand on a plusieurs contrats qu'en fait, il faut commencer à connaître les qualités et les défauts de ses clients. Parce que il y a des choses qu'on attend et qui viennent pas, et en fait on comprend les missions implicites qu'une fois qu'on collabore vraiment avec les clients. C'est-à-dire qu'on a beau marquer des choses sur le contrat, on a beau dire qu'on fonctionnerait comme ça ou comme ça, et bah il y a je sais pas, il y a un certain organisme de formation qui va être très bon dans les relances, mais qui je sais pas, c'est très précis, mais par exemple je sais que telle personne, si j'envoie un mail avec trois questions, elle répond qu'à une question. Je sais que telle personne, c'est plutôt à moi de relancer sur le côté, sur tel sujet, mais c'est eux qui relancent souvent sur tel sujet. Donc voilà, je peux me reposer sur eux, sur l'organisation, sur ça. Par contre, là, je sais qu'il faut que je fasse attention. Enfin, il y a vraiment une notion de connaissance de ses clients pour bien collaborer avec eux que j'avais pas du tout vu venir, qui est intéressante. C'est pas compliqué parce que je pense que ça fait partie du métier. En tout cas, ça m'embête pas vraiment. Mais je pense qu'être clairvoyant sur ça. Et vous dire ça à vous, si vous n'êtes pas encore lancé, de se dire qu'il y a un moment où il faut être clair sur se dire, bon, eux, ils sont pas bons dans ça, c'est pas grave, je vais faire un peu plus ça, eux, ils sont bons dans ça, et vraiment avoir un point de vue avec un pas de recul de ces projets, de se dire, là, j'ai pas besoin de mettre mon énergie, quelqu'un va revenir vers moi, ça s'est toujours passé comme ça, là, c'est à moi de relancer. Là, c'est à moi de relancer pour le côté financier, etc. Hein. Il y a aussi des côtés, ce sera souvent à vous de relancer pour le côté financier, j'imagine. Voilà pour cette première partie entrepreneuriale. Il y a un autre sujet, un autre truc que j'ai fait qui était vachement cool. C'est j'ai fait une intervention face à des jeunes délinquants. Alors c'est peut-être un peu les enfermer dans une case que de dire jeunes délinquants. Mais voilà, je sais pas comment les décrire. Donc des jeunes qui ont fait des conneries en fait et qui doivent faire une journée de la citoyenneté. Et on m'a demandé de faire une intervention. Et c'était super intéressant. J'ai essayé en fait de beaucoup réfléchir à faire quelque chose d'interactif, de pas chiant, avec pas de pas descendant en fait, et qui ressemble pas à un cours. Et je pense que ça a été bien reçu. D'ailleurs, il faut que je demande un retour, mais je vais demander un retour. Et enfin, en fait, j'ai eu un premier retour. On m'a dit que c'était pas mal, mais il devait faire un débrief et ensuite me dire. Donc, je vais demander. Et ce que j'ai compris, c'est que c'est très difficile de jauger le temps d'intervention, en tout cas à mon niveau. Hein, je pense que quand on a de l'expérience, on sait. Mais en fait, de l'expérience, c'est aussi bah, avoir déjà testé. Mais quand on n'a pas testé une première version d'un cours ou d'une intervention, c'est assez difficile de jauger le temps. J'avoue qu'en, enfin, le temps que ça va durer, voilà, je finis ma phrase. J'avoue qu'en disant ça me stresse parce qu'il y a des choses, il y a plein de choses que je vais faire pour la première fois et alors, je sais pas pourquoi, mais il y a un des choses qui me stresse le plus dans la vie, c'est de pas durer assez longtemps quand je fais une formation. C'est-à-dire de dire j'ai une formation d'une journée et que ça dure qu'une demi-journée ou j'ai une formation de 2 heures et que ça dure qu'une heure et demie. Ça me stresse vraiment beaucoup. Et je travaille dessus, et la manière la plus simple de travailler dessus, c'est de prévoir plus, et ensuite de rectifier, et puis dès qu'on l'a fait une fois, deux fois, trois fois, on sait combien de temps ça dure. Et d'avoir un petit peu des, je sais pas, on peut appeler ça des time crushers, c'est-à-dire des choses, des activités où, en tout cas moi, je sais que je vais être à l'aise, et je sais que je vais pouvoir parler pendant X minutes, rebondir. En tout cas là, moi, où je sais que je peux bouffer du temps. Et au-delà de bouffer du temps, je vous dis, c'est un peu deux cerveaux. J'ai un cerveau un peu sauf qui peut de stress où je dois bouffer du temps. Et j'ai évidemment l'autre cerveau où je me dis, je dois transmettre des bonnes connaissances, voire des compétences. Même si transmettre des compétences dans une formation, malheureusement, j'y crois peu. Parce qu'une compétence, ça finit par une habitude comportementale et on ne peut pas entraîner des gens à être habitués de changer de comportement en même 2 jours de formation. Bref, mais je pense que je peux transmettre des bonnes connaissances et tuer du temps, donc répondre à mes deux cerveaux en faisant des activités et en faisant parler en fait. Ce que j'aime, c'est rebondir. Je pense que je suis assez à l'aise pour associer le discours des gens à des théories psychologiques. Et du coup, je suis très à l'aise à mettre les gens dans des situations et à rebondir à dire, ah bah ça c'est super intéressant parce que ça renvoie à ça, ça montre ça. Et ça, en fait, ça répond à mes deux objectifs finalement, qui est un, de déstresser parce que le temps passe, et deux, de transmettre des bonnes connaissances, et trois, que les gens passent un bon moment. C'est vrai que j'y pense beaucoup, qu'on se fasse pas chier. En fait, quand on fait des activités, les gens s'ennuient pas. Par l'activité, on améliore la compréhension et la connaissance. Et en plus, moi, je suis rassuré parce que je sais que je peux rebondir, c'est beaucoup plus fluide et c'est quelque chose qui donne du temps. Enfin, je peux vous donner une idée et ça dure 2 minutes, mais cette même idée, je peux vous la faire vivre dans une expérience, enfin, dans une activité. Puis je vous fais exprimer ce que vous avez pensé, puis je fais un tour sur la théorie. C'est beaucoup plus long, donc moi ça me rassure, mais au-delà d'être plus long, je pense que c'est beaucoup plus imprimé. Parce que des belles phrases, des belles idées, je peux vous en dire. Par contre, imaginons que là, ce que j'ai compris là de la structure avant, pendant, après, si je vous avais dit, bon, maintenant vous vous mettez en groupe et vous réfléchissez à quelle structure est la mieux pour évaluer un programme une évaluation de programme de formation, eh ben, je pense que. Vous auriez beaucoup plus retenu ma structure avant, pendant, après, plutôt que vous dire, bah voilà, c'est ce que j'ai trouvé, faites-le. Pour revenir au sujet général, c'est que c'est assez dur de prévoir en fait combien de temps va durer telle intervention. Et là, ça a été le cas, c'est-à-dire que j'avais prévu plus, mais en fait, tout était inversé. Ce que j'ai cru qu'allait durer longtemps a duré vraiment pas longtemps, et ce que j'ai cru qu'allait durer pas longtemps a duré vraiment longtemps. Pour vous donner des chiffres un peu, il y a des choses, je pensais que ça durerait 1 heure et demie, et ça a duré 1 heure, donc c'est quand même une belle réduction. Et il y a quelque chose que je crois que j'avais prévu devait durer 15 ou 20 minutes. Bah, ça doit être ça, parce que c'était une intervention de 2 heures, donc j'avais 1 heure et demie et 20 minutes avec un peu de pause. Et bah ça a duré 1 heure. Donc finalement, je me suis retrouvé avec 2 heures de formation, avec des 15 minutes qui sont transformées en 1 heure et des 1h30 voire 1h45 qui sont transformées en 1 heure aussi. Donc faites attention si vous formez, en tout cas quand vous débutez, à prévoir plus et se projeter, mais c'est difficile, mais au plus possible sur vraiment à quoi ça va ressembler, comment les personnes vont rebondir, à quel point vous avez des questions, des troisièmes, des quatrièmes questions pour faire expliciter les choses. Et je pense que c'est comme ça qu'on s'en sort. En tout cas, c'est comme ça que je m'en suis sorti. J'avais encore du backup, mais j'ai été surpris. Et j'avais prévu aussi quelque chose que je peux vous conseiller. C'est un espèce d'arbre des décisions, c'est-à-dire une version 1, 2, 3. Et puis, si l'activité 1 ne marche pas, eh ben, j'ai ça. Et puis, si l'activité 2 ne marche pas, j'ai ça. Si l'activité 2 et 3 sont liées, eh ben, j'ai un autre chemin 2 bis et 3 bis qui ressemble. Moi, par exemple, vu que c'était un public potentiellement difficile, hein, c'est des jeunes qui sont parfois déscolarisés, etc. Bah, j'avais peur soit des débordements, mais c'est le pire, mais le plus probable et le moins pire, c'est juste bah, qu'ils s'en foutent et qu'ils participent pas. Donc, au pire, j'avais des vidéos. Même si les vidéos, ça peut endormir, il y a aussi, bah, il faut être franc, il y a une protection de soi, hein, c'est de me dire, bon, si c'est vraiment un public difficile. Vidéo, discussion, hop, je pars et ça y est, je pleure un bon coup dans ma voiture parce que je suis pas le formateur que j'aimerais être, mais voilà, je me suis sauvé. J'avoue que il faut être franc, on est face à des gens, il y a des stratégies pour les autres, mais aussi des stratégies pour soi. Et donc voilà, j'avais un backup au pire du pire qui était vidéo, où je savais que je pouvais quasiment combler 3 quarts d'heure de vidéo. Donc, c'est genre une vidéo de 10 minutes, une discussion, une vidéo de 5 minutes, une discussion. Et je savais que comme ça, je pouvais meubler 45 minutes. J'ai pas envie que ça paraisse, quand je dis meubler, j'ai pas envie que ça paraisse prendre du temps pour prendre du temps. Parce que c'est vraiment les objectifs en même temps. C'est que je sais que ça meuble, mais que ça reste un objectif, hein, une méthode pédagogique qui est pas dégueu. Et que ensuite c'est un peu sympa de discuter, et je sais que c'est des vidéos qui sont intéressantes et où je transmettais des belles choses, mais c'est pas ce que je préfère faire. Donc voilà. Et d'ailleurs, c'est comme ça aussi que je l'ai introduit. J'ai trouvé ça intéressant, peut-être que à apprendre pour les publics difficiles. Alors, public difficile, ça veut aussi dire potentiellement des jeunes, des licences, un public qui parle pas, qu'on n'arrive pas à lancer. Et il n'y a pas besoin d'être délinquant ou d'être déficient mental pour juste pas être investi, hein. Là, je suis arrivé en leur disant, bon, j'ai deux versions. Donc déjà aussi, ça responsabilise en fait. Je veux dire, j'ai deux versions. Il y en a une où on fait des activités, on discute, on échange, et vous ne voyez pas les 2 heures passer. Et l'autre, où c'est des vidéos, c'est peut-être un peu moins rythmé, ça va peut-être un peu plus vous ennuyer. Moi, je vous propose de commencer par l'activité, mais pour ça, j'ai besoin de vous, que vous soyez un peu plus investi. Je pense que ça peut être une bonne stratégie que je vais essayer un peu plus, hein. Je pense que dans d'autres années, je pense que c'est bien pour un premier contact. Là, je suis un peu au milieu de mes cours. Quoique non, en fin d'année, je vais avoir des cours qui vont commencer. Donc, si je sens pas les personnes, je vais peut-être introduire comme ça. Je trouve que c'est quelque chose d'un peu engageant. Bon, faut pas que ça ressemble. Tout est dans le ton, hein. De toute façon, comme beaucoup de choses, je peux vous dire les choses. Les yeux froncés ou les yeux ouverts, ça change tout. Donc je le fais dans un ton sympa, parce que faut pas que ça fasse je vous engueule avant même d'avoir commencé le cours. Introduire comme ça, ça peut marcher, je pense. Tout simplement, c'est important de prévoir plus et de se rendre compte que se projeter sur le temps que va durer une activité, c'est très compliqué. Voilà, je boucle sur la même idée parce que je suis parti dans des tiroirs et je crois que je voulais juste vous dire ça. Voilà, c'est pas grave, je suis content de ce que je vous ai dit par ailleurs. Et on va maintenant pouvoir passer à la rubrique développement personnel, dans laquelle je vais juste vous partager un peu le mood du moment, le mood professionnel. J'ai eu un coup de stress quand même parce que c'est vrai qu'en cette fin d'année, j'ai un peu tous les projets qui se lancent. J'ai un peu pris peur, surtout du fait que pour préparer, j'ai besoin de préparer beaucoup de prestations qui sont pas mal de formations. J'avais peur tout simplement de ne pas être prêt. Je partais un peu dans une urgence où tous les dossiers sont ouverts dans ma tête. Demain, j'avance un peu sur ça, j'avance un peu sur ça, en fait, par tellement peur et envie d'être prêt, que en fait je faisais un truc contre-productif qui était j'avance sur tous les dossiers, comme ça voilà c'est rassurant quoi. J'ai eu un déclic, je sais même pas comment, hein, je crois que c'est vraiment juste en réfléchissant, peut-être en conduisant, parce que je conduis beaucoup en ce moment, j'ai pas mal de trajets et finalement c'est pas mal pour se projeter. Je me suis dit non, il faut que je fasse autrement, c'est même si j'ai le sentiment de perdre du temps sur des projets, faire un jour un projet. C'est-à-dire que j'ai des trucs où il me faut plusieurs jours de préparation de diapositives. Et avant, je faisais... oui, je vais me répéter. Il va falloir que j'arrête avec ce truc de répéter. Bon, je suis un peu obsessionnel sur les critiques qu'on me fait. Désolé, chaque critique va durer 10 épisodes jusqu'à ce que je les oublie. D'ailleurs, le sujet de la répétition, ça fait un peu plus de 10 épisodes. Bref. Envoyez-moi en commentaire si je vous saoule avec certains sujets. En vrai, ça me ferait plaisir, hein, je le répète, j'ai pas vraiment de retour sur vous, enfin de vous. Maintenant, il y a YouTube, donc vous pouvez aller sur YouTube pour mettre des commentaires. Je suis vraiment intéressé pour voir ce que vous en pensez, hein, parce que pour m'améliorer tout simplement. Et ça se trouve, je me prends la tête pour des choses. Où je suis le seul, n'hésitez pas à venir sur YouTube, à venir sur LinkedIn, hein, m'envoyer un message. Sur YouTube, au moins, vous pouvez être anonyme si vous voulez. Donc, pour préciser l'idée, en fait, il y a un mécanisme dans lequel, vu que j'ai 10 contrats environ sur lesquels travailler, ça me stresserait de me dire je travaille pas sur le 10e tant que j'ai pas fini les 9 autres, parce que les deadlines sont à peu près pareils. Mais entre avancer sur les 10 contrats tous les jours, ou le jour 1 finir le contrat 1, le jour 2 finir le contrat 2, le jour 3 finir le contrat 3, et finalement on arrive à être prêt au même moment. Il faut juste enterrer le fait que oui, je ne vais pas travailler sur ce thème-là parce que je suis sur autre chose, mais je vais me libérer de l'espace de stockage mental en fait. Et je trouve que ça c'est important, et en tout cas c'est quelque chose qui me fait du bien de me dire c'est pas grave. Là, ce week-end, j'ai beaucoup travaillé. je travaille sur ce thème-là, au moins je le finis. Et comme ça, même si je commence plus tard le contrat d'après, je peux être à fond dessus. Donc là, je suis dans une période, un jour, un sujet. Et ça me fait beaucoup de bien sur mon stress. Et en fait, ça me permet aussi de retrouver un état finalement que je ne retrouvais pas et qui est fondamental dans le travail. C'est l'état de flow. Donc pour les non-psychologues, l'état de flow, c'est... bon, les sportifs, vous pouvez savoir aussi, je ne sais pas s'il y a des sportifs qui m'écoutent, mais c'est une balance entre l'exigence d'une tâche et les capacités d'une personne. Quand on fait une tâche qui est assez demandeuse et que une personne a assez de ressources pour répondre, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose qui est dur mais qu'on maîtrise, on est dans un état de flow qui est ressenti comme une coupure avec la sensation du temps. On a la tête dedans, on a même un rétrécissement de la vision, on a un plaisir intense à faire une tâche et voilà, on peut la faire pendant des heures, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que avec un surcontrôle de tout planifier, eh ben je m'interdisais la potentialité de rentrer dans un état de flow. Ce qui fait que bah, c'est dommage en fait, parce que c'est utiliser un des super pouvoirs humains qui est d'être à fond, d'être productif et de kiffer, juste parce que je pensais que c'est pas comme ça qu'on était productif. Et donc j'avoue que là, je commence un petit peu à changer ma manière de voir les choses en me disant un jour un focus, et bah, même si je travaille, en fait, je regarde plus, j'arrive enfin à plus regarder le temps de travail. Mais regardez ce qui a été fait. Et donc, avant de se dire, je travaille 2 heures sur le contrat 1, 2 heures sur le contrat 2, 2 heures sur le contrat 3 aujourd'hui, eh ben, je me dis, aujourd'hui, je dois faire ça. Et vu que je suis quand même un passionné finalement de ce que je fais et un passionné de beaucoup de choses, oui, parce qu'il y a un attrait pour rentrer dans un état de flow, il faut quand même faire une tâche qui nous stimule intellectuellement, qu'on aime, je peux rentrer en état de flow assez souvent et assez longtemps. Sauf que la manière de le faire, c'est de me laisser un peu tranquille et de juste me dire, tu dois travailler sur ce sujet aujourd'hui, vas-y et fais-le. Par contre, s'il y a toujours un petit moi avec des cornes qui me dit, non, mais là, t'es pas assez rapide, là, t'aurais dû faire ça comme ça, t'aurais dû faire ça, et bah, je laisse pas l'opportunité, tout simplement, de travailler librement et à fond sur un sujet, ce qui est finalement... Bah, ce qui est finalement productif. Donc en fait, à vouloir être hyper flexible et hyper organisé pour être productif, la meilleure manière de l'être, c'est de me laisser un peu tranquille. Et là, je retombe dans... Alors, il va falloir que je fasse attention à mon workaholisme, hein, mon addiction au travail, parce que du coup, je kiffe d'autant plus et je suis d'autant plus prêt à travailler. Mais je suis enfin en train d'enterrer ce truc de le travail, c'est mal. Enfin, le travail, c'est dur. Et plutôt de me dire, bah aujourd'hui tu dois faire ça, et est-ce que tu kifferais pas faire ça finalement? Et fais-le d'une manière à ce que tu kiffes, même si ouais, ça se trouve, tu l'as fait en 9 heures alors que tu aurais pu le faire en 5. Sauf que sur une perspective long terme, entre se prendre la tête tous les jours à travailler juste 5 heures pour ensuite se reposer, ou travailler un peu plus longtemps parce qu'on a fait des pauses ou parce qu'on a on est passé en mode. À fond sur un détail qui, oui, est pas productif, mais qui nous a passionnés, bah, peut-être qu'on a kiffé notre journée. Et du coup, peut-être que même travailler un samedi ou travailler un dimanche, par exemple, je vais donner un exemple concret. Je me réintéresse un petit peu au marketing. Et je me suis donné une journée pour finir une formation. Et bah, il y a des détails où j'ai passé 1 heure dessus et où la version de moi d'avant aurait dit non. 1 heure, ça vaut pas le coup, etc. Mais là, finalement, j'ai fait ça un week-end. Bah, j'ai kiffé, j'ai appris des trucs, je l'ai fait à mon rythme. Et voilà, je suis en train de comprendre ça. Un jour, un focus. En tout cas, je sais que c'est pas toujours facile, hein, surtout quand on a des visios, etc. Mais en dehors des visios, on peut se dire, voilà, j'ai cette visio sur ce sujet, mais sinon, j'essaye de rassembler les blocs. En tout cas, ça me fait du bien en ce moment. Donc, on va continuer ça. Ça me fait du bien, ça me déstresse. Et en fait, il y a aussi un sujet de complétion. Hein. Enfin, on est content, on peut enfin finir des dossiers. Enfin, c'est important de se dire, OK, là, pour ce cours-là, je suis prêt. On passe à me préparer pour l'autre cours. Là, je suis prêt. Clac, clac, clac. Plutôt que et tout faire en même temps. Je ne sais pas à quel point ce que je dis paraît basique, mais en tout cas, voilà, c'est un travers dans lequel moi, je suis tombé. Si vous pouvez l'éviter ou vous rendre compte que vous êtes dedans, ou précisouiller un peu votre stratégie, tant mieux. Voilà pour la rubrique développement personnel. On va passer à la rubrique recommandations. Et je vais commencer par une première recommandation, qui est un livre qui m'a été envoyé de Gary Lodren et Alexandre Nigel, Nigel, je sais pas, désolé, comment ça se dit, parce que je connais Gary. Salut Gary, qui m'a envoyé son bouquin, merci beaucoup, qui s'appelle Ludopédagogie en santé, et qui est une méthode bah, pour faire de la formation, de la pédagogie de manière ludique en jeu dans le champ de la santé. C'est un livre qui me parle énormément parce que c'est pile poil ce qu'il me faut. En plus, c'est pile poil dans la lignée de ce que je veux faire en ce moment, c'est-à-dire aller vers des activités, faire exprimer des idées, rebondir. C'est beaucoup plus sympa pour tout le monde. Et bah là, j'ai le bouquin qu'il faut qui m'a été envoyé. Donc, et bah, je vous le recommande et je te remercie encore une fois, Gary. Je vais le lire avec plaisir. Je ne vais pas faire comme si c'était déjà fait. Je suis malheureusement occupé et je suis un mauvais lecteur en général, mais là il m'a l'air assez simple à parcourir, donc dans tous les cas je vais y aller parce que c'est quelque chose qui m'intéresse énormément et qui est vraiment, c'est un peu mon livre du moment, il me le fallait, donc je suis super content et je vous le recommande déjà parce que je connais la qualité de travail de Gary. Je vous le recommanderai en le lisant et en vous disant à quel point il est bien, mais je sais déjà que c'est quelque chose d'extrêmement qualitatif. Au-delà de ça, de la petite pub, hein, je suis pas rémunéré, ce n'est pas un partenariat. au-delà de ça, j'ai découvert un truc. Alors là, on sort totalement du sujet, mais voilà, ce podcast sert aussi à partager mes petits trucs de geek, mes petites passions nulles. C'est faire un jeu de rôle avec ChatGPT. Voilà. Maintenant, vous pouvez me traiter de geek. Mais j'ai essayé donc un GPT. Donc, en fait, vous savez, on peut prendre un peu l'API de ChatGPT, lui faire des pré-prompts, donc des pré-questions. En tout cas, lui donner quelques instructions pour qu'il réponde d'une certaine manière. J'essaye de vulgariser parce que je ne sais pas à quel point un prompt API, ça peut vous parler. Mais en tout cas, c'est comme si on avait une version un peu différente de GPT, prêt à répondre à d'autres types de tâches précises. Et là, je suis tombé vraiment par hasard. Je regardais les types de GPT qui peuvent exister. Un truc qui est un jeu de rôle. Donc, en fait, pour ceux qui connaissent pas le système de jeu de rôle, c'est on rentre dans une histoire. Donc, normalement, ça se fait avec une personne physique qui est un maître du jeu, un MJ, et qui dit bon, voilà, imaginez, vous êtes dans une forêt. Toi, tu es chevalier. Toi, tu es un nain. J'en sais rien. Tu as des potions de vie. Toi, tu as une grosse épée. Blablabla. Il nous donne des équipements. Il nous donne des statistiques. Tu as 12 de force. Tu as 4 de défense. Tu as 8 d'intelligence, etc. Et en fait, on traverse une histoire donc par le récit. C'est le MJ qui raconte et qui nous fait passer dans différentes situations. Et en fait, on se projette, les joueurs autour de la table se projettent en disant, bah moi, dans cette situation, je sais pas, là, je croise un loup, et bah, je lui donne un coup d'épée. Et le MJ dit, ah, voilà, vu que tu as beaucoup de force, on lance un dé de force, donc il y a des dés, potentiellement des dés, pas forcément de 6 faces, mais de plusieurs faces, pour déterminer, par exemple, soit la chance pour que le coup atteigne, soit la puissance du coup. Voilà, c'est un résumé très court, mais en gros, c'est pour vous expliquer un peu le système de jeu. C'est un jeu projectif dans lequel il n'y a pas de cartes, il y a potentiellement des dés, et à la limite, il y a des éléments pour se projeter. Des fois, il y a une carte dans le sens map. Quand je disais il n'y a pas de carte, c'est il n'y a pas de carte de jeu, genre Uno ou As, Deux, Valets, etc. Mais voilà, il peut y avoir des choses pour nous projeter. Mais en fait, principalement, tout se fait dans le discours et on se dit, bah voilà, dans cette situation, qu'est-ce que je fais? Ah bah moi, j'avance, moi je vais essayer d'aller dans telle forêt pour voir si je trouve un objet magique, etc. Donc on est dans un univers féerique, guidé par un MJ. Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est que ChatGPT pouvait le faire très bien. Et donc, je l'ai fait tout seul. Voilà, c'est triste, mais je l'ai essayé tout seul et j'ai essayé aussi avec un pote. Et c'est incroyable en fait, parce que ça marche très bien. Et ça répond à une problématique qui est que quand on n'est pas beaucoup, quand on aime les jeux de rôle, moi j'en ai pas fait beaucoup, mais j'aime ça. Mais je trouve rarement des potes, assez de potes pour le faire, et où un est assez bon pour guider, pour faire le MJ, parce que c'est assez dur, il faut être flexible. Et du coup, si on est chaud, mais si on est 3-4, bah, il y en a un qui limite se sacrifie, et puis 3-4, c'est peut-être pas beaucoup. Enfin, j'ai jamais vraiment trouvé le système dans lequel je me sentais bien de le faire. Sauf que là, ça répond à quelque chose, c'est qu'il n'y a pas une personne qui se sacrifie pour faire le maître du jeu, c'est que ça peut être ChatGPT. Et ChatGPT a une flexibilité infinie, une créativité infinie. Et bah, c'est ce que j'ai vu. Donc j'ai lancé une aventure en mode audio avec ChatGPT. Et en fait, bah, ChatGPT me raconte, voilà, t'es dans une forêt, t'es devant une grotte, qu'est-ce que tu fais? Il m'attribue des stats. Et en fait, ça fait une histoire dont vous êtes le héros. Totalement variable, qui peut être, enfin, qui a une infinité d'histoires, et je trouve que c'est une puissance de jeu qui est incroyable. Je viens de réfléchir à faire un lien entre mes deux recommandations et de me demander si je peux pas faire un jeu de rôle ludopédagogique à ChatGPT dans une formation. Voilà, cette idée n'est pas déposée. Je crois que j'aurais pas le don pour la faire, mais franchement, si vous faites un truc comme ça, bah, créditez-moi, enfin non, créditez-moi dans le sens, dites-moi que vous l'avez fait, dites-moi que ça marche, mais dites pas mon nom. Mais c'est vrai que ça peut être super intéressant. En tout cas, voilà, je revois une potentialité énorme de ChatGPT, en tout cas pour le côté ludique, que je trouve hyper intéressante. Et donc, je vous le recommande, tout simplement. Peut-être pour ceux qui ont du mal à dormir ou pour ceux qui veulent quitter leur téléphone pour dormir, eh ben on peut le faire en version audio. Bon, oui, on se met à parler à son téléphone. Donc vous gérez vos problèmes de vision de vous-même vis-à-vis de ça. Moi, ça ne me dérange pas parce que je le vois comme un jeu, quoi. Mais en tout cas, bah, ça nous permet de jouer en fermant les yeux quasiment et en se projetant dans des univers un peu fantastiques. Donc pour s'endormir, ça peut être pas mal. Et puis même, pour ceux qui aiment les jeux de rôle ou pour ceux qui veulent se tester au jeu de rôle, avec peu d'amis, ça peut marcher. Moi, je l'ai fait avec. On était deux, avec un deuxième pote. Et ben voilà, j'ai lancé la partie, j'ai dit bonjour, on est deux joueurs. Il nous a dit, bah, vous voulez être quel type de joueur? Il y en a un qui a dit, moi, je suis mage. Et moi, personnellement, j'étais chevalier. Et ben, il nous a dit, voici vos stades, voici où vous êtes, et allez, on va commencer. Donc voilà, pour vos soirées, ça peut vous intéresser. Je vais finir, histoire de faire une recommandation précise, je vais faire une petite pause sur l'enregistrement et vous dire exactement c'est quel GPT. Alors peut-être qu'il faut la version payante, mes excuses pour ceux qui ne l'ont pas. Mais si vous ne l'avez pas et que vous êtes dans le domaine de la recherche, de l'entrepreneuriat ou de la production de contenu sur LinkedIn, sincèrement, ça fait partie de mes meilleurs investissements de l'année. Je pense que je ferai un post LinkedIn sur mes meilleurs investissements de l'année. Bref, je vais faire une petite pause et je vous dis exactement c'est quel GPTs avec lequel je suis. Alors c'est bon, je suis allé voir mon chat GPT et la version que j'ai essayée et que j'aime bien pour l'instant, mais il y en a sûrement d'autres, s'appelle Deep Game. DEEPGAME. Voilà, tout simplement. Essayer, et normalement c'est assez simple d'utilisation. Je sais plus exactement comment j'ai commencé, la conversation est trop longue, mais bah, au pire vous demandez les règles, essayez de préciser à la limite que vous voulez fonctionner en mode JDR, que vous aimeriez bien avoir des caractéristiques de jouer en tour par tour, etc. Enfin voilà, en fait ce qui est bien c'est qu'il est super adaptable et il peut produire des images aussi. Donc vous pouvez dire, bah, produis-moi une image de cette situation, ça peut vous projeter. Enfin, franchement, je ne sais pas à quel point j'ai l'air d'un geek fan d'un truc que personne ne va comprendre, mais je trouve que c'est quelque chose d'incroyable. Donc si ça peut rentrer dans l'esprit d'une ou deux personnes qui m'écoutent, bah, et bah, tant mieux. Voilà pour ce qui est du podcast de cette semaine. Je suis en train de réfléchir. Je crois que j'ai une autre recommandation culturelle. Allez, c'est pas grave. Je crois que justement, je me laisse un peu plus le temps de kiffer des trucs divers. Donc, j'ai peut-être plus de recommandations à vous dire. Le dernier album de Tyler the Creator. Voilà. En général, Tyler the Creator, pour ceux qui aiment le rap, mais qui sont saoulés du rap classique et qui veulent avoir de la musicalité. Des choses qui sont quasiment dissonantes, mais qui offrent une vraie patte artistique, un vrai style à part entière, eh bien, je vous conseille cet album. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est le dernier en date de Tyler, the Creator. Voilà, sur ces belles recommandations et sur ce podcast, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous avez passé de bonnes semaines. J'espère que vous passerez encore une bonne semaine. Bah, moi, je tiens à vous dire que je suis super satisfait de cet épisode. Ça ressemble à ce que je voulais faire. J'ai moins l'impression de raconter ma vie, j'ai moins l'impression de me répéter, j'ai l'impression de vous dire des trucs vraiment sur lesquels je réfléchis et qui pourraient vous aider si vous avez un parcours qui est proche du mien. Dites-le-moi hein, si c'est le cas, justement. Et voilà, je me sens de plus en plus à l'aise à discuter. J'avoue que je vais peut-être retourner dans une phase un peu audio parce que c'est quand même bien. Je m'y sens bien, c'est mon petit cocon. Je mets mon petit casque alors qu'il ne me sert à rien. Et puis je discute. Voilà, on verra pour le côté stratégique, le côté essayer d'être connu. Dans tous les cas, pour l'instant, c'est pas le sujet. Mais voilà, sachez que je vous livre un podcast dans lequel j'ai pris plaisir à vous parler et où je suis satisfait du niveau d'information. Et donc, j'espère que c'est votre cas. Et si c'est votre cas, n'hésitez pas à me le faire savoir, soit en notant le podcast sur la plateforme d'écoute, potentiellement Spotify, je crois que vous êtes pas mal dessus, soit en me le disant directement sur LinkedIn ou sur YouTube. Bref, fin de pub. Je vous souhaite toujours une bonne semaine et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Bip Bip.